Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Blanche Ngani Kamala.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal du matin dont voici les titres. Les femmes de l'Ituri doivent s'approprier la résolution 1325 pour la recherche de la paix dans cette province. Cet appel provient des structures féminines engagées dans le processus de paix dans la province à l'occasion de la commémoration des 25 ans de cette résolution de l'ONU qui met l'accent sur la participation des femmes dans les instances de prise de décision. Le VPM de l'économie nationale poursuit son itinérance dans la province du Sud-Ubangi. Ce mardi, il s'est rendu dans les territoires de Kungu et de Gemena pour évaluer les potentialités productives de ces régions et envisager leur revalorisation. Le député national Didier Kamundu Batundi est l'invité de ce journal. Il s'est dit préoccupé de la crise qui secoue l'Assemblée nationale depuis la rentrée parlementaire qui est essentiellement budgétaire. Il propose quelques pistes de solutions pour sortir de cette crise. Mais d'abord cette information, le gouverneur de la Tchopo, Paulin Lendo Ngolia, et le bureau de l'Assemblée provinciale et 8 députés porteurs d'une motion de défiance visant le gouvernement provincial sont convoqués à Kinshasa. C'est ce qu'indique un télégramme du ministère de l'Intérieur signé le 18 octobre par Jean-Baptiste Ndeze Katurebe, vice-ministre des Affaires coutumières. Cette mesure vise à désamorcer la crise institutionnelle qui oppose l'exécutif provincial au législatif dans la province de la Tchopo. Le gouverneur est visé par une motion initiée par 8 députés provinciaux. Les pétitionnaires lui reprochent notamment l'incompétence, mauvaise gestion, détournement présumé des fonds publics destinés à des projets comme la réhabilitation du stade Lumumba et la réhabilitation de la route nationale numéro 4, ainsi qu'une atteinte aux libertés fondamentales. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour. Les femmes de l'Ituri doivent s'approprier la résolution 1325 pour la recherche de la paix dans cette province. C'est en substance l'appel des structures féminines engagées dans le processus de paix dans la province. Elles l'ont dit ce mardi 21 octobre 2025 à l'occasion de la commémoration des 25 ans de cette résolution des Nations Unies qui met l'accent sur la participation des femmes dans les instances de prise de décision au même titre que les hommes. Selon ces associations féminines, les femmes qui sont dans les groupes armés doivent prendre conscience de leur rôle dans la pacification de l'Ituri et la réconciliation des fils et filles de cette province meurtrie par les conflits armés. Marthe Dev est membre du réseau des femmes médiatrices de l'Ituri, Réfémi. Elle explique au micro de Martial Kizabiamongo.
Mais nous lançons un message clair aux femmes. Nous avons notre résolution 1325 qui veut à ce que les femmes soient impliquées dans les espaces de prise de décision, qui veut que les femmes s'impliquent dans la recherche de la paix, qui veut que les femmes s'approprient cette résolution et qu'on puisse connaître nos droits en tant que femmes. Cela ne nous permet pas d'être des bourreaux en même temps, cela ne nous permet pas d'appuyer les groupes armés, mais nous devons être des bons conseillers. Les femmes doivent conseiller leurs affaires, d'être là aux côtés de leur mari pour les décourager à adhérer aux groupes armés, à commettre des exactions, à commettre des viols sur les femmes. Nous pensons que c'est ça le rôle que doit jouer une femme, mais pas d'aller dans les groupes armés parce que la femme, c'est une éducatrice. La femme doit éduquer, la femme doit donner des bons exemples à suivre. Et si la femme elle-même et dans ce qui n'est pas bon, les affaires seront comment? C'est dans ce sens-là que les femmes qui sont encore dans les groupes armés de sortir parce que les groupes armés n'est pas leur place.
Marthe Dev ajoute que l'insécurité dans plusieurs régions de l'Ituri ne permet pas la bonne vulgarisation de cette résolution des Nations Unies. Les déplacés des guerres du Nord et du Sud Kivu vivent dans des conditions précaires à Kinshasa. Logement, nourriture et même l'eau à boire posent problème. Ils ne savent pas non plus subvenir à d'autres besoins de leur ménage. Raison pour laquelle une délégation de ces déplacés est venue ce lundi rencontrer le représentant du bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme, muni d'un plan d'action qui comprend des projets urgents pour 3 mois en vue d'apporter une solution aux problèmes qu'ils rencontrent. Augustin Kazaroho, leur porte-parole, explique leur démarche au micro de Lukinzao.
Nous sommes à Kinshasa depuis un temps avec l'envahissement de la ville de Goma et de Sud-Kivu. Beaucoup de gens se sont retrouvés en difficulté et nous et plusieurs personnes sommes retrouvés ici à Kinshasa en notre qualité de déplacés où nous menons une vie très difficile. Et c'est ainsi que nous sommes venus rencontrer les structures appropriées telles que la MONUSCO afin d'étudier ensemble les possibilités de prendre en charge et de créer quelques projets d'urgence pouvoir apporter une solution rapide au problème que courent les déplacés de guerre du Kivu vivant ici à Kinshasa. Tel est l'objet de notre présence ici aujourd'hui avec croyance que selon les missions des Nations Unies, il ne manquera pas une solution. Les gens ici sont logés dans des familles d'accueil, d'autres dans des écoles, d'autres dans des églises où ils connaissent une vie déplorable. Il y a une autre catégorie de ceux-là qui sont complètement en difficulté. Ils ne peuvent rien avoir. Même de l'eau à boire.
Au sud que vous, des voix s'élèvent à Chabunda pour dénoncer le détournement des biens destinés aux sinistrés et autres catégories vulnérables au sein de la communauté. Selon la société civile locale, ce don du gouvernement central a plutôt bénéficié aux personnes non concernées au mépris des véritables destinataires. Le don était constitué des vivres et non-vivres destinés aux victimes des catastrophes naturelles, aux veuves, aux orphelins et aux personnes de troisième âge. Joseph Mpesseni, président honoraire de la société civile de Chabunda, demande au gouvernement central de diligenter une enquête. On l'écoute.
Nous venons dénoncer les détournements manifestes des biens d'aide du gouvernement de la République démocratique du Congo par les chefs des services des affaires humanitaires sous la couverture de l'autorité administrative en place. Ces dons étaient constitués par des tôles, selles, gobelets, clous, bidon vide et que sais-je encore. Mais curieusement, au lieu que les bénéficiaires puissent les recevoir, dont notamment les victimes des catastrophes naturelles, les handicapés, les orphelins, les veuves, les personnes de troisième âge puissent en être bénéficiaires, on a juste servi ceux-là qui ne devraient pas être servis. Par exemple, certaines associations qui n'ont pas connu de catastrophes naturelles, voire même les chefs de service de l'administration territoriale qui auraient bénéficié de certains tôles et d'autres tôles étaient vendus auprès des opérateurs économiques.
Contactés par Radio Kapi, certaines autorités territoriales incriminées rejettent toutes ces allégations affirmant que l'aide a été bel et bien distribuée aux destinataires. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale Daniel Moukoko Samba poursuit sa tournée dans la province du Sud-Ubangi. Ce mardi, il s'est rendu dans les territoires de Kungu et de Gemena pour évaluer les potentialités productives de ces régions et envisager leur revalorisation. À Kungu, le cadre choisi a été le centre de développement intégré de Bwamanda CDI Bwamanda, une ASBL autrefois florissante dans la production et la distribution de café, maïs, cacao et soja. Aujourd'hui en déclin, cette structure continue néanmoins d'accompagner les petites unités agricoles et d'entretenir les routes des dessertes agricoles. Blaise Makashinandes pour les détails.
Le ministre a visité tour à tour le siège social de CDI Bwamanda, le parc à engins, l'entrepôt, le poulailler et l'école destinée aux enfants des agents et des habitants du territoire. Après un échange avec les responsables de l'entreprise en présence des élus du Sud-Ubangi, le directeur général de CDI Bwamanda a exprimé l'attente d'un appui du gouvernement central, partenaire traditionnel de la structure.
Le voir venir ici chez nous, ça montre combien il s'est déploie pour le développement intégral. Il est venu, il a vu ce que nous faisons, il a vu aussi nos limites. Je voudrais rappeler ici que le gouvernement congolais reste le premier partenaire de CDI Bwamanda. Nous attendons du gouvernement son appui. Nous sommes bien placés pour résoudre beaucoup de problèmes que lui pouvait le faire, parce que nous avons l'autorité ici dans le coin.
À Gemena, Daniel Moukoko a visité la division provinciale de l'économie nationale qui fonctionne dans des conditions précaires. Bâtiments vétustes, espaces exigus et seulement une soixantaine d'agents rémunérés sur les 183 qui contre la province. Enfin, il s'est rendu à l'INERA. Kabira de Boketa, un centre de recherche agricole en déclin. Malgré une main-d'œuvre motivée, les équipements sont vétustes. Daniel Mukoko s'est engagé à plaider pour la redynamisation de cette structure essentielle à la relance de l'économie agricole dans la région.
Province du Tanganyika, manifestation c'est lundi des enseignants de la sous-division Nyonzo 1. Ils réclament leur salaire de 3 mois d'août, septembre et octobre par la Banque Afriland, First Bank. Les enseignants ont manifesté devant le bureau de la sous-division. On déplore quelques blessés, un bureau d'une école et la résidence d'un sous-prophète ont été vandalisés par les manifestants en colère. Le point avec Paulin Monanga.
Plusieurs manifestants brandissant des morceaux de branches scandaient des chansons. Ils se sont dirigés au bureau de la sous-division de l'enseignement Nyonzo 1 pour réclamer leur salaire, indiquent des sources locales. Sur place, la situation a dégénéré et les enseignants ont vandalisé le bureau du groupe scolaire Mulongo et la résidence du sous-prophète de l'EPST Nyonzo 1. Quelques enseignants ont été blessés, rapportent des témoins. D'après les porte-paroles du syndicat des enseignants de Nyonzo, Rachidi Fataki Abdallah, au moment où ils attendaient la paye du mois d'août, le mois de septembre s'est ajouté et bientôt c'est le mois d'octobre qui tend vers sa fin. D'après lui, les enseignants sont à bout de la patience. Contacté par Radio Okapi, le sous-prophète de l'enseignement Nyonzo 1 condamne ces actes de vandalisme. Ernest Mwamba souligne que les agents payeurs qui étaient à Nyonzo ont servi les enseignants de l'intérieur du territoire et sont retournés à Kalemi sans payer les enseignants de Nyonzo Centre. Nous n'avons pas pu joindre l'agent payeur d'Afriland à Nyonzo. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale organise en collaboration avec celui de l'Environnement, Développement durable et Économie du climat un séminaire atelier de validation du répertoire des métiers liés directement au domaine de l'environnement du 21 au 23 octobre courant dans les installations de l'INPP Kinshasa, selon Donna Bagula Mugangu, secrétaire général au ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale. Il est important d'aligner dans les registres des formations professionnelles les métiers verts en vertu des potentialités que regorgent les pays dans le domaine de la conservation de la nature. Écoutez un extrait de sa déclaration au micro de Tati Mapoko.
Les métiers innovants, les métiers verts, devraient être scrutés afin de faire partie comme composante intégrale du registre des métiers et des emplois de la République démocratique du Congo. Et nous comptons, comme ministère de l'Emploi et au nom du gouvernement, vous avez suivi que la semaine dernière a validé que cet atelier puisse se tenir afin d'approuver ce répertoire des métiers verts, ainsi que le plan national de développement des emplois vers la République démocratique du Congo.
La RDC connaît plusieurs catastrophes récurrentes, cas des inondations, incendies et autres. Comment identifier les risques et comment s'y prendre au cas où cela arrivait? C'est ce qui a poussé les centres opérationnels d'entraînement pour la réduction des risques catastrophiques, COERC, à organiser une série de formations en partenariat avec la réserve armée de la défense de la RDC RAD. 10 des 26 communes de Kinshasa y ont pris part. Au total, 11 000 jeunes congolais ont acquis des notions sur le patriotisme et sur les actions précises pour réduire les impacts des catastrophes. La remise des certificats marquant la fin de leur formation a eu lieu samedi à Kinshasa. Naomi Mutoke.
Parmi les jeunes qui ont suivi la formation, on compte des anciennes victimes des inondations à Kinshasa. Bienvenue du manga manifeste une joie immense. Pour lui, la formation est bénéfique pour servir le pays.
Oui, la formation a bien été bénéfique et nous avons vraiment attendu aux fruits que nous pouvons avoir pour servir le pays.
Le colonel Soupir Mulumba, directeur des opérations civilo-militaires de la RAD, dit être surpris de cette belle activité.
Je ne m'attendais pas. Ils m'ont surpris. Les rapports qu'ils faisaient, je pensais que c'était fantaisiste. Mais arrivé sur le lieu, les rapports étaient bons. Le résultat qu'ils nous ont apporté vont faire à ce que nous allons continuer avec et au Bas-Congo.
Ce samedi, un échantillon des 50 apprenants a reçu le brevet pour couronner cette formation. Ils disent être désormais outillés pour aider le pays à réduire le risque de catastrophe.
Actualité internationale.
présidentielle ivoirienne, à 4 jours du scrutin, 32 manifestants condamnés à 3 ans de prison ferme, reconnus coupables de troubles à l'ordre public pour avoir participé à une manifestation interdite à laquelle avait appelé le Front commun le 11 octobre dernier à Abidjan. Tous ont nié y avoir pris part. Leurs avocats ont fait part de leur intention de faire appel. Le patron de la presse sénégalais, Madiambal Diane, arrêté en France puis libéré, visé par une enquête au Sénégal liée à des soupçons d'escroquerie portant sur les deniers publics, Madiambal Diane est visé par un mandat d'arrêt international émis par la justice sénégalaise.
L'invité.
Le député national Didier Kamoundou Batundji s'est dit préoccupé de la crise qui secoue l'Assemblée nationale depuis la rentrée parlementaire essentiellement budgétaire, tout en annonçant aussi sa candidature au poste de président de la Chambre basse du Parlement. L'élu des Massis sur Nord-Kivu et cadre de l'Union sacrée appelle à l'organisation de primaires pour départager tous les potentiels candidats de cette plateforme politique du pouvoir en place au nom de la démocratie. Il s'entretient avec Grace Hamzati.
Didier Kamoundou, bonjour.
Oui, bonjour.
En signant votre fidélité à l'Union sacrée, vous annoncez en même temps votre candidature au poste de président de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui explique votre ambition?
J'ai effectivement renouvelé ma loyauté à l'Union sacrée et au chef de l'État. J'en ai profité pour annoncer mon ambition comme candidat président de l'Assemblée nationale, puisque, comme vous le savez, il y a une crise. Et cette crise date d'environ un mois maintenant. Il n'y a pas de solution jusque-là. Si vous examinez les revendications des pétitionnaires qui ont fait que l'honorable Kamere Vital puisse démissionner, vous remarquerez qu'il y a effectivement un problème sérieux dans la gestion de l'institution Assemblée nationale. Et c'est pour apporter des réponses, pour apporter un nouveau souffle et des réformes, de nouvelles réformes capables d'asseoir la paix, la cohésion au sein des institutions de la République que j'ai décidé de déposer ma candidature.
Mais nous apprenons que l'Union sacrée a déjà désigné son candidat qui est l'ancien ministre de l'Industrie. Il a démissionné lundi pour justement regagner son siège à l'Assemblée nationale. Pourquoi ne soutenez-vous pas la candidature d'une seule personne au sein de l'Union sacrée?
Oui, effectivement, au début c'était des rumeurs. Aujourd'hui, on apprend que son Excellence le ministre Boji Emé a démissionné de son poste de ministre pour réintégrer l'Assemblée nationale. Ça signifie tout simplement que les rumeurs sont en train de se confirmer. À notre niveau, nous ne sommes pas encore informés. Nous ne pouvons pas commencer à anticiper sur ce qui peut être considéré comme une intention ou une ambition. Jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est pas prononcé. Nous devons aussi savoir que nous faisons partie de l'Union sacrée de la nation. C'est une institution démocratique. Vous l'avez vu lorsque Kamere est venu, on lui a opposé plusieurs candidats. Nous avons fait des primaires. Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas la même chose aujourd'hui. Je ne vois pas pourquoi on désignerait un seul candidat. Je crois que ce qui va primer, c'est la capacité à chacun de se défendre, mais on va faire triompher la démocratie interne en autorisant à ce qu'il y ait plusieurs candidatures. Le chef de l'État, en tant que notre chef au sein de l'Union sacrée, aura certainement son mot à dire. Il va donner ses orientations, mais pour le moment, il n'a rien donné comme orientation. Moi, je me prononce comme candidat. Le processus est en marche. Je suis en contact avec ma famille ou mon regroupement politique. Je suis en contact avec l'Union sacrée, plusieurs acteurs, plusieurs autorités de l'Union sacrée qui m'encouragent tout simplement puisqu'ils veulent et aussi voir triompher la démocratie interne au sein de l'Union sacrée.
Si l'Union sacrée décide officiellement de choisir un seul candidat, allez-vous vous soumettre à cette exigence?
Je suis un député très discipliné. J'ai travaillé il y a très longtemps au sein des associations de la société civile, nationale, internationale. Je sais ce que veut dire la discipline au sein d'un groupe. Donc, si à l'issue des consultations, nous arrivons à nous mettre d'accord sur un candidat, eh bien, on va se remettre à la décision de la majorité. Si par contre, il n'y a pas consensus sur ça, je maintiendrai alors ma candidature. Je suis député, j'en ai les droits.
Selon vous, quel est l'impact de tout ce qui se passe, de cette crise hein, qui se passe au sein de l'Assemblée nationale sur le climat social?
Cet impasse, c'est une honte. C'est une honte pour la République, c'est une honte pour nous les députés et c'est une souffrance pour le peuple. Notre mission est de travailler pour le peuple. Ce n'est pas de créer la zizanie. Moi, j'estime qu'il y a eu beaucoup d'erreurs par le passé et que chaque responsable qui va diriger l'Assemblée nationale, il finit d'une manière ou d'une autre par subir les conséquences de ce désordre qui a commencé il y a plusieurs années. Il faut y mettre fin. Il faut recadrer les choses. Il faut réformer l'Assemblée nationale. Il faut réformer les outils de travail et ramener le calme et la cohésion au sein de l'Assemblée nationale.
Didier Kamundo, je vous remercie.
Je vous remercie.